marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Où est-ce qu'on se trouve là exactement ?
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Avec Raphaël Kraft, la Haute-Marne à vélo.
Salut les élèves de des classes de CM1, de CM2 d'Arc-en-Barrois. Je suis en train de pédaler sur un petit chemin de terre. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour tous vos petits mots et tous vos dessins qui m'ont fait très très plaisir. Parce que parfois, je me sens un peu seul sur mon vélo. Et quand je reçois vos messages, ça me donne du baume au cœur. Je vous disais que je pédalais sur un chemin de terre et ça monte. C'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé. J'ai fait beaucoup de zigzags en fait depuis qu'on s'est quitté. La région dans laquelle vous vivez est tellement belle que je m'y sens bien.
Raphaël Kraft a passé contrat avec un collège de Saint-Dizier et une école d'Arc-en-Barrois. En mai, il a raconté aux élèves ce qu'ils voyaient de leur département en direct, en y circulant à vélo. Les lecteurs du JHM pourront lire ses aventures cet été. JHM, c'est un des charmes de ce département. Outre ses eaux et ses bois, il dispose encore d'un quotidien rien que pour lui et qui reste animé par sa famille fondatrice. Au temps où le général de Gaulle habitait Colombelles et deux églises, on ne disait pas « journal de la Haute-Marne », on disait dans les revues de presse « Haute-Marne libérée ». La Haute-Marne a un lien fort avec le papier. Diderot à Langres, Voltaire à Ciret sur Blaise, Louise Michel à Vroncourt-la-Côte, et il faudrait ajouter les Goncourt, plusieurs éditeurs, dont Flammarion, Lévi-Strauss. Les noms de Haute-Marne sonnent donc bien. Mais qui parmi les Français saurait les situer ? Sous l'Ancien Régime, au moins la région était considérée parce qu'elle faisait office de frontière avec la Lorraine. C'est bien pour cela d'ailleurs que Voltaire l'avait choisie. La Révolution a brouillé les cartes en raboutant dans un même département des morceaux de provinces diverses. La situation démographique d'aujourd'hui ne facilite pas non plus l'identification. Ils ne sont plus que 180 000 Haut-Marnais. Au gouvernement, on trouve que tant de communes, deux députés, deux sénateurs, c'est beaucoup pour si peu d'habitants. L'avantage, c'est qu'ici et là, dans l'immensité des forêts ou dans les prés, on peut creuser, à cause du désert français, entre guillemets, des caches pour les déchets nucléaires et planter des éoliennes. S'il y avait ces heureuses perspectives, les Haut-Marnais ne seraient pas loin de se considérer comme inutiles, ce qui ne déplairait pas à beaucoup d'entre eux, qui demandent d'abord peut-être qu'on ne les embête pas.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Raphaël Kraft, bonjour.
Bonjour Jean.
Dans le journal de la Haute-Marne, JHM, HPJ, Henri Pierre Jeudy, c'est un vieux sachem qui habite Ciret, un écrivain et sociologue.
Un Cirec, on peut même dire.
Ouais, et il dit, c'est drôle, avec Kraft, on voit quelqu'un qui a l'art d'entrer chez les gens comme s'il était déjà venu. Il a toujours l'air de revenir.
Bah, c'est vrai que la Haute-Marne, j'y suis revenu, puisque vous me l'avez fait découvrir il y a quelques années, et puis l'émission que vous animiez sur France Culture s'étant terminée, bah, des liens d'amitié se sont créés, avec notamment les habitants d'un village, Blumeray, et depuis maintenant 13 ans, puisque j'ai découvert Blumeray, ce village, le 7 juillet 2005, le jour des attentats de Londres.
Mais vous avez quand même à vélo, parce que vous pratiquez le journalisme à vélo, vous en êtes un des promoteurs, fait l'Amérique latine, enfin une partie de l'Amérique latine, les Antilles, quand elles ont bien voulu de vous, le Proche-Orient, et puis le Tour de France.
Oui, trois Tours de France.
Le pas de Julien et d'André dès 2002. Ensuite deux autres.
Julien et André, effectivement, le Tour de la France par deux enfants en 2002, après l'accession de Jean-Marie Le Pen au pouvoir, pour tenter de comprendre ce qui s'était passé, en 2007 également pour France Culture et 2012 pour France Télévisions.
Alors, ils ont été épatés, les élèves de Saint-Dizier et d'Arc-en-Barrois, quand vous leur avez raconté toutes ces aventures vélo, cyclépodiques.
vélocipédique. Hein, je l'ai bien dit.
Vélocipédique.
Même. Vélocipédique. Et vous les avez rencontrés, mais ils vous avaient déjà vu sur leur tablette, j'imagine, avant de vous observer des visus.
Oui, ben c'est-à-dire que je suis venu avant de faire le tour de la Haute-Marne à vélo. Je suis venu en Haute-Marne et j'ai pas rencontré que des élèves. J'ai rencontré des retraités, tout un tas de public pour leur parler pas seulement de journalisme à vélo, mais également de la pratique du métier, puisque j'étais là dans une résidence de journalistes de la DRAC, la Direction régionale de l'action culturelle. Et donc j'ai parlé effectivement de mon métier, pas seulement de vélo, de tous les voyages que j'ai pu faire. J'ai été correspondant au Proche-Orient au début du 21e siècle. J'ai couvert un certain nombre de conflits. Avant la naissance de mon fils, pour arrêter, j'ai couvert les révolutions arabes, etc. Je me suis rendu en Ukraine, dans les Balkans, en Amérique latine, en Amérique
centrale. Et il vient nous voir, se sont-ils dit. Alors, la préfecture, c'est Chaumont. Il y a deux sous-préfectures, Saint-Dizier, au nord, est célèbre pour sa base aérienne.
Oui.
D'où partent avec une belle régularité des rafales.
Bombarder la Syrie, notamment.
Mais ils vont aussi parfois en exercice, simplement, les rafales. Autrement, ils passeraient pas aussi souvent au-dessus des têtes.
On dit même qu'ils allaient saluer les putschistes enfermés à la prison de Clairvaux.
Mais la capitale radiophonique de la Haute-Marne, c'est, vous avez cité le nom, Blumeray. Bon, une église assez jolie, avec inscrit dessus, liberté, égalité, fraternité, une rue, parce que c'est un village de plateau. Un
peu, la rue Saint-Laurent.
À la façon lorraine. Alors les auditeurs nous demandaient souvent, mais pourquoi vous n'allez pas, je sais pas, au château de Joinville, à l'abbaye d'Autrive? Oui, mais c'est que l'hospitalité de Bob à Blumeray, dans une maison toute simple, peuplée d'horloges et qui fait fonction d'aimant et sans équivalent.
Mais moi, des bouches de champagne. Si tu as acheté le champagne, tu avais des bouchées, tu dois les déboucher, c'est pas à moi. Après, je pourrais jouer de l'eau. SDF, viens. Allez, hop.
C'est la rafale de la base de Saint-Dizier.
Ouais. Il y avait l'autre qui... Il était en chômage. Et c'est... après-midi, comme ça, les avions étaient passés, ils téléphonaient là-bas. Parce que ça le dérangeait pour faire la sieste.
Bon, bien, au moins...
Bon, tu l'ouvres ta bouteille ou quoi?
Vas-y, tu l'ouvres.
Bah, c'est à moi de l'ouvrir, ouais. Oh la vache, il fait du bruit, celui-là. Il y a de la pression. Bon, alors, tu dis rien, toi, l'enfant. Tu pourrais me parler un peu, non?
Attends. Ça vous embête de trinquer à mon départ?
Non, on s'en fout pourvu qu'on mange.
Non, on va déjà trinquer à ton arrivée.
Déjà. On s'en content deux fois. Voilà. On est content quand tu viens et on est content quand tu t'en vas. On est content deux fois.
Voilà, à la tienne.
Alors, votre point de départ, c'est Blumeray, survolé par les rafales, plus souvent qu'à leur tour. Dans le ciel, les rafales, le vélo... Vous avez expliqué aux élèves comment il était, ils l'ont trouvé bien, ils ont été déçus.
Ils étaient un petit peu déçus par le vélo, ils s'attendaient à un vélo technologique, ils s'attendaient à du carbone, du Kevlar, tout un tas de choses, mais lorsqu'on fait de la randonnée à vélo, il faut un vélo solide, et surtout qu'on puisse réparer n'importe où dans le monde, que ce soit au milieu de la Patagonie ou sur les hauts plateaux tibétains, c'est-à-dire un vélo en acier, donc un vélo assez lourd finalement, pour qu'on puisse le souder, et puis l'équipement d'une bicyclette avec, on va pas citer la marque, mais quelque chose d'assez mondialisé pour pouvoir changer les plaquettes de frein, etc.
On peut citer Google Maps, c'est avec Google Maps que vous vous orientez?
J'ai découvert lors de ce voyage que l'option vélo sur Google Maps avait beaucoup évolué ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est-à-dire que désormais Google Maps vous emmène sur des chemins donc que personne n'emprunte, souvent des chemins de terre. Et j'ai eu raison parce que j'ai deux vélos. J'ai un vélo de course sur lequel je mets une remorque que j'utilise généralement en France et un autre vélo qui est plus pour les voyages transcontinentaux. Et j'ai eu raison de prendre le deuxième parce que je me suis retrouvé dans la forêt et là notamment en route vers le sud de la Haute-Marne.
Alors, si on reste un instant dans le nord, Aune-le-Val, une puissante fonderie qu'on peut visiter encore, Vassy, une fonderie, Celle de Sommevoire fonctionne toujours, c'est l'héritière de la maison Duren, qui joue sur le retour en force du mobilier urbain de Naguère. Les lanternes du pont Alexandre III, c'est Duren. Les Compagnons de Saint-Pierre, animés par Joël Oer, ont largement contribué à sauver catalogue et modèles qu'ils ont installés dans un joyeux enchevêtrement au paradis de Sommevoire.
Où est-ce qu'on se trouve, Joël Oer?
Alors là, on se trouve ce qu'on appelle le paradis, un fond de modèle de fonderie qu'on appelle le fond de modèle Antoine Duren. Alors, si vous voulez une œuvre en fonte ou en bronze, il faut un modèle. Voilà. Le modèle, c'est donc la réplique exacte de l'objet que vous voulez. Et vous voulez une statue en fonte ou en bronze, il vous faut donc un modèle, voilà, qui est fait en plâtre. Mais avant d'être fait en plâtre, l'artiste le fait déjà en argile. Il modèle l'argile. Cette argile est recouverte de plâtre, dans lequel ensuite on retire la terre pour y remettre du plâtre. Et ce plâtre-là, c'est la réplique exacte de l'œuvre qui a été modelée par l'artiste et qui était en terre. Voilà.
Et ensuite?
Ensuite, ce modèle va en fonderie. Soit l'artiste peut avoir son propre modèle qui lui appartient, qu'il appellera ça un modèle d'atelier, soit c'est le fondeur qui l'a commandé à l'artiste, et dans ce cas-là de Duren, quand Duren commandait à un artiste une œuvre pour mettre à son catalogue, cette œuvre venait en fonderie, il n'y avait que le nom de Duren, on n'y voyait pas le nom de l'artiste. Et M. Duren, la première chose qu'il faisait faire, c'était donc éditer cette œuvre en fonte pour la mettre à son catalogue. Voilà.
On revient au paradis où on se trouve. Qu'est-ce que c'est le paradis?
Donc le paradis, c'est là où on peut voir toutes les œuvres qui ont été exécutées par un artiste. Donc beaucoup d'œuvres statuaires. Tout ce qu'on voyait là donne une idée de ce que pouvait produire une fonderie au XIXe siècle.
Bien. Le paradis, on y voit Bélé, Jeanne d'Arc et Marianne.
Des Vierges à l'Enfant, ouais. Le Christ en croix.
Ouais, le Lion de Belfort. Tout ça, ensemble, une belle illustration de la complexité de l'histoire de France. Sommevoire est au confluent de la Voire et de la Vivoire. Et après, vous allez sur la Blaise. Il y a beaucoup de rivières en Haute-Marne.
Bah, j'ai essayé, durant tout ce voyage, de remonter les cours, en effet. Donc, j'ai remonté la Blaise, l'Aube, j'ai descendu la... Enfin, remonter ou descendre, hein. J'ai descendu la Meuse, une partie de la Marne, etc. Effectivement, la Blaise a ce site particulier qu'elle serpente beaucoup. Et Voltaire le disait, d'ailleurs, la Blaise serpente. Depuis...
Il habita longtemps, pendant une quinzaine d'années, vers 1730-1740, avec Madame du Châtelet, au château de Ciré-sur-Blaise. Non loin du château, la maison du vieux sachem Henri-Pierre Jeudy, qui vous reçoit après libation.
On dirait que c'est un département qui sert à rien. Enfin, sinon à enfouir des déchets nucléaires.
Oui, c'est un département qui sert à rien. Mais il a beaucoup servi, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été quand même un département à l'époque de Napoléon III, qui était le premier producteur de fonte et de fer, etc. Les vallées étaient surpeuplées ici. Il y avait à Ciré, par exemple, aujourd'hui, il y a 90 habitants, et à l'époque, sous Napoléon III, il y avait, 850 à peu près. C'est-à-dire que toute la situation est partout pareille. Mais l'inutilité dans un monde qui est obsédé par l'utilitarisme à outrance, surtout économique d'ailleurs, c'est très agréable d'être dans l'inutile, dans un monde inutile, quoi. On a un sentiment d'être dans un monde qui est devenu inutile ici. Mais cette inutilité, pour moi évidemment, ça a un côté poétique. Voilà, le vide, c'est génial. Par exemple, dans la journée, tu vois une personne passer sur la route, peut-être, même pas. Faut peut-être attendre parfois 8 jours. Donc, on est vraiment dans le vide. Tu vois, par exemple, tout d'un coup, me vient l'idée que on dit la nature a horreur du vide. Mais non, pas du tout, c'est ce qu'elle préfère. Moi, je vis l'impression qu'elle préfère le vide, la nature, ici. Donc, c'est l'inverse, quoi, de ce qu'on raconte. Et puis... T'as le vide, t'as le silence, t'as l'absence, qui est une forme de présence, bien sûr. Et puis, il y a peut-être aussi un sentiment que beaucoup partagent, hein, ici, mais qui est un beau sentiment, c'est le sentiment d'abandon, mais on n'a pas envie qu'on nous retrouve. Ce serait ça, la particularité de ce sentiment d'abandon. C'est-à-dire de prendre plaisir à être abandonné, en fait.
C'est-à-dire, venez pas nous faire chier.
Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais de toute façon, personne ne vient nous faire chier. Donc, la question, c'est une question inutile, ça se pose même pas, quoi. Non, mais il y a des gens, évidemment, ici, qui n'en jouissent pas de ce sentiment d'abandon. Ils l'ont et ils le répètent à la cantonade, un peu comme un principe d'écho, quoi. Tout le monde dit que la campagne est abandonnée des politiques, que bon, etc. C'est un côté un peu faux-cul, quoi. Parce que très profondément, ils sont contents aussi qu'on ne s'occupe pas d'eux, justement. Finalement, même quand on a l'air de se plaindre du sentiment d'abandon, en fait, c'est pas vrai, quoi. C'est un trompe-l'œil, quoi. Un trompe-l'oreille, plutôt, d'ailleurs.
Mais les rafales passent si souvent, parce que la comtesse de Salignac-Chenelon, qui essaie de tenir debout le château de Voltaire et de Madame du Châtelet, se plaint des effets des rafales.
Ouais. Depuis, je ne saurais pas dater, mais c'est vrai qu'il est interdit désormais aux rafales de passer le mur du son au-dessus de la Haute-Marne, et parce qu'effectivement, ça avait tendance à fissurer les tableaux, les fresques murales. Et comme la Haute-Marne compte beaucoup sur son patrimoine, c'était dommage. Effectivement. Mais je les ai entendus passer le mur du son malgré tout.
On est content qu'on ne s'occupe pas trop de nous.
On est content d'aller vendre des choses sur eBay, qu'on a obtenues pas forcément dans des conditions légales, de brocanter. On est content d'emprunter les chemins de traverse pour rentrer d'une fête le soir pour éviter la gendarmerie. 500 permis retirés en Haute-Marne.
500 permis ?
Plus maintenant, au mois de mai, c'était 500 permis retirés en Haute-Marne depuis le début de l'année. Donc oui, il y a cette ambiguïté de ce sentiment d'être à la fois abandonné par l'État, et puis ce sentiment aussi qui n'est pas propre à la Haute-Marne, que l'État n'est plus protecteur et qui demande de plus en plus, à travers les radars automatiques, à travers tout un tas de choses comme ça.
Les Hautes-Alpes ont fait un pas de côté, là. Le département a pris la décision de porter la limite sur les routes qui était fixé à 70 km/h à 80 à partir du 1er juillet pour harmoniser aux grandes dames des autorités gendarmesques. Alors, le braconnage, si je vous comprends bien, c'est au moins aussi important que la chasse. Et la chasse, Christian Saget, accompagné par son père, le docteur Hubert Saget, autre grand sachem d'autrefois de la Haute-Marne.
Oh, dis-moi, charmante bergère, n'aurais-tu pas vu le chasseur? Oh, dis-moi, charmante bergère, n'aurais-tu pas vu le chasseur? Mais oui, répond la belle, il est sur le chemin. Rappelle tes chiens, rappelle les miens, rappelle à vous, rappelle la mienne. Taillot, taillot, taillot.
Et voilà. Je la vois. Alors, il y a une croix. Et une plaque. Où il est inscrit. À la dévotion des parents de Jean. Christophe Léoté de Vivet, maire de cette commune, le 21 décembre 1811, ce respectable vieillard, entrant dans sa 79e année, fut assailli en ce lieu par un loup furieux qui le blessa. Son courage lui rendit son ancienne vigueur. Armé seulement d'une petite serpe, il étendit à ses pieds ce terrible animal et délivra ce pays du monstre qui en aurait été longtemps la terreur. 6 personnes avaient déjà péri de ces morsures quand leur vengeur en mourut lui-même 85 jours après sa victoire. Arrête passant, honore sa mémoire et prie Dieu pour le repos de son âme.
Mais le loup est réapparu, et devinez où, à Blumeray, bien évidemment,
qui dans
est
la forêt de Blainfay,
de la Haute-Marne. On va faire un détour, puisque vous avez circulé en zigzag dans le département, et là on va vers Vroncourt-la-Côte. C'est un autre paysage.
Oui, alors c'est la particularité de la Haute-Marne, vous l'avez dit dans votre chapeau, ce sont des morceaux de province, des morceaux de région, où on a un nord-ouest qui est champenois, un sud-ouest et un sud qui est plutôt bourguignon, un sud-est qui est de la Haute-Saône, voire de la Vosges, et puis à l'est de Langres, on passe la route en direction de Bourbonne-les-Bains, et là les gens disent, au-delà de la route, c'est la Lorraine. Et effectivement, je me suis rendu aux sources de la Meuse. J'ai descendu cette vallée de la Meuse que j'aime beaucoup. Je ne la connaissais jusque-là que dans la région de la Meuse, et notamment à Domremy-la-Pucelle, pour arriver à Vroncourt-la-Côte.
Alors Domremy-la-Pucelle, Arc-en-Barrois, dit aussi que Jeanne d'Arc vient du village, le village commanditaire, à Vroncourt-la-Côte. Une autre vierge, la Vierge Rouge, celle de la commune de 1871, elle est née là-bas en 1830, Gisèle Ladier, la mère de la commune.
Je vais vous dire, moi quand je suis arrivée il y a 40 ans, je suis mariée avec un... Je ne suis pas originaire de Vroncourt-la-Côte, j'ai épousé un gars de Vroncourt-la-Côte.
Moi, un agriculteur.
Un agriculteur. Et donc j'étais originaire de Clinchamps. Je ne connaissais pas... déjà, je ne connaissais pas Vroncourt-la-Côte. Et donc, Louise Michel, et donc on s'est mariés en 1971. Et la stèle a été érigée en 1972. Et quand je suis arrivée, donc en 72, c'était... Là, il y avait 500 personnes. Alors, des œillets rouges, le poing en l'air, que j'avais 20 ans à l'époque, donc fille d'agriculteur, plutôt éduquée côté église, côté... Voilà, je me dis, pouf, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis tombée? Et donc, je connaissais pas l'histoire de Louise Michel, parce que nous, à notre époque, Louise Michel, à l'école, on n'en avait jamais entendu parler, hein. Et donc, au fil du temps, ben, j'ai appris, j'ai appris, et donc, c'est une personne qui m'a beaucoup, qui m'a plu dans ce qu'elle pensait, dans ce qu'elle souhaitait. Et puis, en vivant à Vroncourt, ça fait 40 ans que j'y suis, je vous le dis, et quand on lit ses textes et quand elle parle de l'hiver, les hivers à Vroncourt, bon, nous, aujourd'hui, on a le chauffage central, on a quand même pas mal de commodités, mais elle, dans son grand château, c'était un peu comme une prison, hein, il y avait quatre tours, il n'y avait pas de chauffage, rien, on a les bois qui sont juste au-dessus. Et quand elle dit, on entendait les loups qui venaient jusqu'au château, c'est vrai que l'hiver ici, c'est un peu terrible, hein. Il fait pas chaud. Hein.
Le fait d'avoir vécu 40 ans à Vroncourt, est-ce que ça a infusé sur votre âme, sur votre esprit? Est-ce que vous êtes toujours la jeune catholique conservatrice que vous étiez à 20 ans en arrivant ici?
Disons que je suis catholique, je suis pratiquante. Mais je ne suis pas un mouton.
On a compris, les homards ne sont pas des moutons. Ils sont contents quand on ne s'occupe pas trop d'eux. C'est mécanique d'ailleurs, moins il y a d'habitants, plus il y a d'originaux. Et d'original, Château-Vilain. Nous sommes maintenant au sud, Château-Vilain. Un jardin fermé de murs, une sorte d'autre paradis.
Exactement. J'ai été logé chez la voisine du jardin et qui m'a présenté Christiane et Christine, qui a, lorsque le père de Christiane, la mère, Christine la fille, elle s'appelle Christine parce que sa mère avait la flemme de trouver un prénom, donc elle l'a appelée Christine. Et donc la mère et la fille s'occupent de ce jardin depuis une longue maladie du père, de l'époux. Et c'est un espèce de... Je ne vais pas dire bric-à-brac, mais il y a une harmonie phénoménale dans ce jardin où tout le monde s'entend, que ce soit le corbeau apprivoisé, les escargots qui sont peints.
Ah oui, tout le monde dialogue, les fleurs, les plantes,
exactement.
Les arbres.
C'est magnifique, oui. Vous pouvez me le décrire?
Ah, ici vous avez les buis. C'est des buis qui poussaient tout seuls, et puis Christine les a taillés suivant leur forme.
Oui, elle les a taillés un peu à la française?
Non, à notre façon.
Ah.
Parce qu'il y a un peu toutes les façons. Il y a même des petits animaux, vous avez dû voir.
Il y a un buis en forme de lapin.
Celui-là.
Ouais.
On l'appelle, j'ose pas le dire, Hiroshima.
Pourquoi?
Ben, c'est un triste souvenir. Ouais. C'est celui-là, le rond, vous savez.
Ah oui, le... ah oui, en forme. Celui-là. Oui, celui-ci, il est en forme de champignon atomique, oui.
Ouais. Ils ont tous des noms.
Oui, tout le monde a des... même les animaux ont des noms ici.
Ah oui, 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 oui. Il y a surtout des chats, hein. Ouais. Il y a de... ah, elle vous a parlé de son corbeau, Christine?
J'ai entendu parler du corbeau, oui.
Comment il s'appelle?
Max.
C'est un corbeau apprivoisé.
C'est un corbeau sauvage, hein, c'est pas un petit corbeau qui a été élevé. Et puis comme il venait manger avec les poules, il est venu, il continuait de venir tous les jours, toute l'année. Christine lui donne à manger sur le mur. Elle l'appelle Max. Il arrive des fois tout seul, des fois avec sa femme. D'accord. Elle leur met des cacahuètes. Ils adorent les cacahuètes.
Alors il y a aussi les escargots.
Ah ben les escargots, qu'elle s'amuse à, quand il n'y a rien à faire, à décorer, à peindre.
Même les escargots vivants?
Même les vivants, alors quand il pleut, ils se baladent dans la nature.
Et les escargots aussi sont des patronymes?
Oh, je ne sais pas encore. Enfin, il faut qu'elle vous le dise, elle, parce que moi, je ne les connais pas bien. C'est elle qui s'en occupe.
On peut faire une visite du jardin?
En visite. Tous les ans, on plante quelque chose. Il y a des tulipes ici depuis 100 ans, 50 ans. Ça doit ressortir de temps en temps parce que j'en ai retiré beaucoup, il y en avait trop. Et il y en a encore plus cette année, alors je ne comprends pas. C'est un miracle.
Ouais. Donc les tulipes, là je vois des pivoines.
Des pivoines, oui. Alors il y avait un pied de pivoine ou deux. Moi je les ai séparés, j'en ai replanté un peu partout. Quand il y avait de la plage, j'ai dit, je mets des pivoines. Et puis maintenant, il y a des pivoines partout. Vous voulez voir le nom des escargots?
Oui, s'il vous plaît.
Alors, allez-y.
Christine, fille de Christiane.
Ah, bonjour, Raphaël.
Oui, on ne se souvenait pas trop, enfin...
Moi, je ne me souvenais pas du nom de tes escargots qui se promènent dans le jardin. Les vivants.
Les vivants, il y a les Écossais, hein, à carreaux. Il y a nuage, lune, hein, un nuage, une lune. Gordini, hein, une bleue, un bleu avec le trait blanc.
Comme la R8.
Pareil. Puis bon, tous, ils ont un petit nom. Le japonais, la fleur. Voilà, quand il pleut, je les vois tous, là, qui sortent. Ça me fait plaisir. J'ai les hérissons aussi, qui passent le soir.
Ils ont un nom aussi?
Oui. Monsieur White, Monsieur Blue, comme dans Réservoir Dog.
Voilà, votre voyage à vélo, Raphaël, fonctionne selon une belle symétrie. Au paradis de Sommevoire, au nord, répand le paradis de Christiane et Christine, à Château-Vilain, au sud. Et à Blumeray, un lieu où l'ardeur à la fête est sans égale, répond un autre endroit au sud qui vous a étonné.
Oui,
c'est Le Chais.
Oui, Le Chais. Lorsqu'on voyage à vélo, quand on quitte un endroit, on demande est-ce que vous connaissez quelqu'un 10, 20, 50, 100 kilomètres plus loin? Et Joël, de Blumeray-Sommevoire, m'a dit écoute, il faut absolument que tu ailles au repas paysan du vendredi midi à Le Chais, ou en tous les cas dans la région d'Hénon-Auval. Et donc, je me suis arrangé pour arriver un vendredi midi à Le Chais. Et j'ai retrouvé cette ambiance de Blumeray. Alors, vous qui êtes sensible au chevauchement des époques, Jean, j'avais l'impression que Le Chais ressemblait à Blumeray il y a 20 ou 30 ans, puisque c'est une population beaucoup plus jeune. C'est un village qui a doublé sa population, qui a une démographie galopante.
Oui, mais le repas double aussi là-bas. On se met à table à 13h30 et...
Et on en sort à 3h du matin, avec une petite pause pour ce qu'on appelle régler la goutte.
Régler la goutte à 19h.
Là, on est à combien de degrés, là, en pur?
Je sais pas, 60, 70, je sais pas à combien elle est.
Voilà, environ 65 degrés.
C'est de la Mirabelle.
Pour 30,
c'est
un 30 alcool. Litres, quoi. Donc,
c'est un fruit qui est très sucré et qui donne beaucoup de... Enfin, davantage d'alcool que certains autres fruits.
Donc, on a une trentaine de litres qui font 2000 degrés. Pour les ramener à 50 degrés et le résultat souhaité, il va falloir rajouter 10 litres d'eau.
D'accord. Ce qui n'est pas beaucoup.
Non.
Et cet appareil, c'est quoi?
C'est un densimètre.
Moi, je vous dis, ça va être la leçon. La Haute-Marne, c'est l'eau de vie, parce que, comme dit Fernand Renaud de Joinville, la Haute-Marne lave les yeux. Alors, votre voyage, ce sera dans le JHM tout l'été, le journal de la Haute-Marne, Raphaël Kraft. Et puis, il y a un site, une Facebook, tout ça, vous trouvez ça sur notre propre site, celui de la Marche de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, avec aujourd'hui à la technique Henri Berès.